OK, on va recommencer. Hein. Bon après-midi à vous tous. Et aujourd'hui, la dernière fois, on avait vu toutes les technologies de stockage et de conversion de l'énergie et regardé les problèmes des matériaux, et la nature des matériaux et la variété des matériaux. Et on avait également vu que certains de ces matériaux étaient peu abondants, d'où l'exposé sur les positions stratégiques au niveau des matériaux au niveau européen et au niveau français. Aujourd'hui, on va prendre plus la casquette du chimiste, c'est-à-dire que maintenant, on va aller dans ces matériaux et on va voir comment on va les synthétiser, comment on va les construire. Et c'est un peu cette chimie déductive ou inductive du chimiste que je vais vous montrer aujourd'hui. Et je vais essayer de rester simple en utilisant des concepts relativement courants pour vous montrer cette élaboration de matériaux. Alors, je vais tout d'abord commencer par vous rappeler le contexte, mais vous commencez à le savoir un peu. C'est le contexte énergétique d'aujourd'hui dans lequel on peut voir ici que la population va augmenter et atteindre les 8,2 millions d'habitants. Et pour cela, il faudra finalement doubler la quantité d'énergie ou la quantité de puissance installée. En même temps, eh bien, on a l'épuisement des énergies fossiles, comme on peut voir sur cette courbe, avec cette courbe en cloche, et également la pollution associée à ces énergies fossiles. Donc, par conséquent, un grand espoir demeure dans les énergies renouvelables, qui sont les énergies qui proviennent du soleil, du vent, de la biomasse, et ainsi de suite. Mais comme vous savez tous, eh bien, ces énergies sont intermittentes et il va y avoir besoin de les stocker. Alors, pour les stocker, nous avons vu la dernière fois qu'il y avait différents moyens de les stocker. Il y avait le stockage, je dirais, par les volants d'inertie. On a vu le stockage électrochimique, avec notamment différentes sortes de dispositifs électrochimiques que sont les piles à combustible, les batteries et les supercondensateurs. Bon, aujourd'hui, on va se focaliser surtout sur les batteries, comme indiqué ici, qui sont nécessaires pour mieux gérer les ressources d'énergie renouvelables de notre planète, mais également pour favoriser le développement du transport électrique, comme mentionné ici. Et enfin, toutes ces batteries, dont celles dont on va parler aujourd'hui, eh bien, c'est celles que vous utilisez dans vos appareils portables de tous les jours. On ne va pas directement regarder les puissances de ces batteries, ainsi de suite, mais on va plutôt regarder les matériaux qui les constituent, et plus spécifiquement l'électrode positive. Alors, quels sont ces différents types de batteries? Eh bien, vous avez différentes technologies, et toutes celles-ci vous sont familières, puisqu'on a la technologie acide-plomb, la technologie nickel-cadmium, nickel-métal-hydrure, et ensuite, toutes ces batteries à la base de lithium, métal ou de lithium-ion. Et certainement, je dirais que la découverte ou le développement de la technologie lithium-ion est certainement la plus grande avancée technologique du XXe siècle. Alors, que sont ces batteries? Bien, elles sont indiquées ici. Comme tout système électrochimique, elles sont simplement constituées de deux électrodes avec des matériaux d'insertion comme électrode positive et comme électrode négative. Et c'est ces matériaux d'insertion qui sont finalement rien d'autre que des éponges vis-à-vis du lithium que l'on va regarder aujourd'hui. Celles que vous avez dans vos portables vont utiliser ce matériau dont on reviendra par la suite. C'est un oxyde de cobalt comme électrode positive et du carbone comme électrode négatif. Alors bien sûr, lorsqu'on dessine de nouveaux matériaux, on essaie d'augmenter la capacité. Et la capacité, elle est donnée par cette formule très simple dans laquelle vous avez une règle de 3. Vous avez la capacité qu'on exprimera en ampères-heure par kilogramme qui par une constante qui est 26,8, qui est la transformation ou la conversion de Faraday en Coulomb, multipliée par delta x, qui va être le nombre de lacunes dans ce composé d'insertion, et m, qui va être la masse. D'où, vous avez compris la règle du jeu, relativement simple, il va falloir augmenter ce nombre de lacunes delta x et, dans ce cas, diminuer la masse, ce qui fait qu'on voudra des matériaux légers. D'où les accumulateurs que vous avez aujourd'hui fonctionnent, sont régis par cette simple relation. Alors, ce qu'on va voir maintenant, eh bien, on va pouvoir quand même la physique ou la chimie qui est derrière tout ça. Eh bien, tous ces matériaux d'électrode, toute réaction électrochimique nécessite la dualité ion-électron. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas avoir une réaction électrochimique si vous n'avez pas l'un ou l'autre. Il vous faut les deux. Et dans ce cas, on va prendre des composés d'insertion qu'on appellera des structures hôtes, dans lesquelles on va y mettre des espèces invitées qui seront les alcalins, pour donner la relation indiquée ici. D'où la dualité ion et électron est essentielle pour le développement de telles technologies. Alors bien sûr, si j'ai des ions et des électrons, eh bien, il va falloir que je les mette quelque part. Eh bien, les ions, ils vont directement aller dans cette fameuse structure cristallographique. Et cette structure cristallographique, eh bien, ce sont des composés lamellaires, comme indiqué ici, monodimensionnels ou tridimensionnels. C'est-à-dire, on voudra des structures ouvertes. Okay. c'est-à-dire comme du gruyère, il faudra des cavités dans lesquelles les ions lithium vont pouvoir rentrer. Mais il y a les ions lithium, mais il faut également les électrons. Les électrons devront également occuper un endroit dans cette structure cristallographique. Eh bien, ils vont occuper ce que l'on connaît bien, qui est la structure de bande. La structure de bande, vous avez ici représenté l'énergie en fonction de la densité d'état. Vous avez des bandes P et des bandes D. Et dans ce cas, vous allez remplir ces bandes. Et le dernier niveau occupé est le niveau de Fermi, qui va déterminer si un composé est métallique, semi-conducteur ou isolant. Eh bien, c'est à partir de cela que l'on va directement construire ces accumulateurs. Alors, bien sûr, la question, c'est comment ajuster ces bandes. Alors, voilà ici votre accumulateur lithium-ion, toujours le même. Et maintenant, on va regarder finalement qu'est-ce qui se passe. Eh bien, vous avez une électrode positive, une électrode négative. Et si je représente ça dans la structure de bande ici, l'énergie en fonction de la densité d'état, vous avez ici l'électrode négative, lithium ou carbone, avec un réservoir. Regardez ça comme un réservoir d'électrons. Et l'électrode positive, indiquée ici, avec notre réservoir. Eh bien, qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous allez décharger votre accumulateur, c'est comme si vous avez finalement deux bassins et vous allez tout simplement les niveler. Et dans ce cas, eh bien, vous allez obtenir la courbe électrochimique qui est indiquée ici, où vous diminuez le potentiel, ça veut dire qu'en ce cas, vous remplissez en faisant passer des électrons, de l'électrode négative, lithium, à l'électrode positive indiquée ici. Et bien sûr, cette différence, ce niveau de Fermi, c'est ce qui va vous donner votre potentiel de sortie. C'est-à-dire lorsque vous avez un accumulateur de 2 volts, 3 volts, eh bien, ça va être cette différence. D'où, vous voyez que dans ce cas, eh bien, ce potentiel, c'est le potentiel chimique du lithium dans ses composés. Et ce qui est important, bien sûr, va être la position des bandes. Eh bien, il se trouve que plus une bande sera basse en énergie, plus, dans ce cas, on aura un composé ionique, c'est-à-dire ça va être relié à l'ionicité de la liaison. Donc, par conséquent, je vais vous introduire maintenant quelle va être cette ionicité de liaison. Alors, pour faire ces matériaux, eh bien, bien sûr, il va falloir le faire dans le contexte du développement durable. C'est-à-dire que dans ce cas, il va falloir utiliser différentes sortes d'équations ou des définitions de matériaux. Car un composé par lui-même n'est rien, ce n'est qu'un matériau qui est la somme de la composition chimique, du procédé d'élaboration et de la fonction qui va être importante. D'où, si on veut faire des matériaux dans le cadre du développement durable, eh bien, il va falloir d'abord choisir quels sont les éléments. Eh bien, ces éléments, on va les choisir à partir du tableau périodique. Et on ne veut pas, bien sûr, des composés toxiques, on ne veut pas des composés peu abondants, on ne veut pas des composés coûteux, et ainsi de suite. Et vous allez voir que si maintenant je sors tous ces composés, qui sont directement des composés toxiques, qui sont des composés peu abondants, qui sont des composés lourds, et ainsi de suite, vous voyez que je n'ai plus grand-chose dans mon tableau périodique avec quoi je vais travailler. Mais il reste, heureusement pour nous, quelques éléments, parmi lesquels, vous pouvez voir ici, on va avoir les alcalins, qui sont ces fameux métaux, qui vont aller directement à se loger dans les trous de la structure. On va avoir aussi les métaux réducteurs, c'est-à-dire que chaque fois qu'on va mettre un alcalin, il va y avoir une réaction redox, et cette réaction redox va avoir lieu sur les composés 3D, et enfin, il nous faudra des anions, qui sont ceux indiqués ici. Donc voilà finalement sur les différentes sortes d'éléments qu'on va jouer dans le tableau périodique. Comme vous pouvez voir, on a un très grand nombre d'éléments, mais on va l'utiliser que très peu. Il faudra faire des combinaisons avec tous ces éléments. Ensuite, il y a le procédé d'élaboration. Et dans ce cas, on veut faire des matériaux qui sont des procédés peu énergivores, c'est-à-dire qu'on va être obligé d'utiliser des méthodes de synthèse basse température. D'où, par conséquent, on va quitter les hautes températures, c'est-à-dire les méthodes céramiques, pour passer à des méthodes chimie douce en solution. Et enfin, le troisième point que l'on veut dans ces matériaux, c'est la fonction. Et bien sûr, puisqu'en ce cas, on parle de matériaux d'électrode, la fonction va être le potentiel. D'où, notre rôle va être de faire un choix de ces matériaux et d'ajuster le potentiel. Alors, comment ajuster ce potentiel? Il y a bien sûr des approches théoriques, comme vous verrez par la suite, mais on va faire ça de la façon du chimiste. Alors, il y a plusieurs approches. Il y a tout d'abord la chimie expérimentale combinatoire, comme vous pouvez voir ici. C'est lancé des dés et tout ça ressort du hasard. On ne va pas poursuivre cette approche. Il y a l'approche chimie théorique combinatoire. Il y a de nombreux progrès dans cette approche, mais elle n'est pas encore, je dirais, mature pour pouvoir être utilisée et pour lui faire confiance. On verra par la suite. Et enfin, il y a l'approche qui nous est plus particulièrement appropriée pour les chimistes, qui est l'approche que j'appellerais chimie déductive ou inductive. Mais dans ce cas, on va se baser finalement sur trois critères. On va tout d'abord opérer par analogie. On va profiter du couplage fort entre la structure et la propriété des matériaux. Et on va bien sûr se reposer sur la mécanistique des réactions essayer de comprendre ce qui se passe en interaction de façon à pouvoir les dupliquer et à pouvoir les améliorer. Alors bien sûr, pour ce faire, eh bien, on va avoir des outils, il va falloir jouer avec tous ces atomes, et on va y jouer parce qu'on connaît très bien le tableau périodique. Et en effet, ce tableau périodique va être l'élément essentiel dans nos réflexions. Si, bien sûr, on connaît toutes les informations qu'il y a à l'intérieur. Parmi ces informations, il y a bien sûr le rayon ionique, qui va tout simplement, dans ce cas, croître au fur et à mesure directement que je vais aller de la droite vers la gauche, et ainsi de suite. Mais il y a également ce qui est très important, et qui va être finalement le dénominateur commun de cet exposé, l'électronégativité. Et ça, c'est cette notion qu'il faut que vous preniez pour suivre cet exposé. Alors l'électronégativité, ce n'est pas grand-chose, c'est l'aptitude d'un atome à capter un électron. Et on va s'apercevoir que cette électronégativité, elle augmente au fur et à mesure qu'on va de la gauche vers la droite, c'est-à-dire que le fluor va être beaucoup plus électronégatif que le lithium, et également, cette électronégativité eh bien, va tout simplement monter au fur et à mesure qu'on va du bas vers le haut du tableau périodique. Eh bien, à partir de cela, on va pouvoir tout simplement moduler notre liaison chimique. Vous avez ici une liaison chimique qui est formée d'un cation et d'un anion dans lequel vous avez le double électronique. Ce double électronique, de façon schématique, lorsqu'il est situé au milieu de la liaison, on va parler d'une liaison covalente. Et maintenant, eh bien, pour avoir des potentiels redox, dont je vous l'ai mentionné, on veut des liaisons plus ou moins ioniques. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ? De façon très simple, on va tout simplement choisir des éléments de façon à modifier l'électronégativité entre les deux, le cation et l'anion. Et plus cette électronégativité va augmenter, eh bien plus on va passer vers un modèle purement ionique. Okay. Et ça, ça va être la clé dans tout cet exposé. Alors à partir de cela, eh bien, on peut expliquer pas mal de choses. On peut expliquer pourquoi les liaisons métal-oxygène sont plus ioniques que les liaisons métal-soufre ou métal-sélénure. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous voyez qu'en ce cas, l'électronégativité eh bien, va diminuer au fur et à mesure que je passe de l'oxygène au soufre et au sélénium. De la même façon, on peut expliquer pourquoi SiO aura une liaison qui sera moins ionique que AlO ou que nickel oxyde. Okay. Donc tout ça vont être très importants par la suite. En effet, ces liaisons vont contrôler le potentiel. Et vous avez ici ce qu'on va utiliser également, ce que j'appellerais l'effet inductif. Vous avez une liaison métal-chalcogène. Vous voyez que maintenant, si je change l'électronégativité, eh bien, je vais tout simplement, de nouveau, changer la position de ce doublé. Ça veut dire qu'en ce cas, je serai covalent et je deviens ionique. Et une autre façon d'augmenter cela, c'est de le faire en mettant des polyanions, dont on parlera par la suite, où je vais avoir un transfert de charge via l'oxygène sur cette nouvelle entité. Et on pourra pouvoir obtenir des potentiels beaucoup plus élevés. Et cela, effectivement, on peut le voir et on le verra dans les diagrammes de structure de bande, où si je prends des composés, qu'on verra par la suite, eh bien on peut s'apercevoir qu'au fur et à mesure que je vais directement augmenter l'électronégativité, on va directement augmenter les potentiels. D'où, lorsque je vais dessiner un nouveau composé, eh bien je vais réellement regarder cette différence d'électronégativité pour savoir où est-ce que je vais me situer dans les potentiels et est-ce que j'ai des hauts potentiels ou pas. Bien sûr, tout ça, c'est le transfert de charge, c'est-à-dire c'est la partie électronique, si je peux dire, mais il y a également la partie structurale. Et là aussi, dans la partie structurale, vous savez très bien que les atomes ils vont s'agencer, il y a certaines règles de dimension qui vont faire en sorte que les cations, par exemple, vont occuper soit des sites octahydriques, des tétrahydriques qui sont créés par l'environnement que sont les ligands, ici dénotés X. Et bien sûr, vous pouvez voir que si maintenant on va changer la grosseur de ce ligand, si par exemple je prends cet atome jaune et que je vais directement le transférer par un atome violet de taille inférieure, et bien cela va directement va appliquer une pression sur mon cation, c'est-à-dire qu'il va y avoir un confinement, et ce confinement va avoir tendance à réduire la taille de mon cation, d'où, pour accepter cela, le cation va s'oxyder. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, les états d'oxydation maximum vont être obtenus avec les oxydes, ensuite avec les sulfures et ensuite après les sélénures. Donc voilà, si vous voulez, comment on peut jouer avec cela. Et ce modèle de pression chimique eh bien, va être tout simplement très important pour réglementer les états d'oxydation dans les différents composés inorganiques qu'on va utiliser. Alors bien sûr, ces interactions entre différents cations ainsi que ces pressions chimiques, eh bien, elles vont gouverner la façon dont les polyèdres vont s'agencer entre eux. C'est-à-dire qu'ils vont soit se partager des sommets, soit des faces, soit des arêtes, pour conduire à ces différentes structures qui peuvent être monodimensionnelles, bidimensionnelles ou tridimensionnelles, dans lesquelles vous pouvez voir certaines cavités où les ions pourront se loger. Mais c'est également ces différents recouvrements ou agencements de polyèdres qui vont déterminer si une structure peut être ionique ou covalente. Et cela va être bien sûr important pour l'électrochimie. En effet, si je prends ici trois composés au fer, notamment Fe2O3, NaFeO ou Na4Fe2O5, lorsque je regarde ces structures, vous apercevez qu'en ce cas, eh bien, les octaèdres vont partager des faces et des arêtes. Ils ne vont partager que des arêtes dans le cas de NaFeO2 et, dans ce cas, des sommets. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut voir dans ce cas? Eh bien, c'est que la covalence de cette liaison va augmenter au fur et à mesure qu'on va passer directement de faces et arêtes à des sommets. C'est-à-dire qu'on passe de structures denses à structures légères, et les structures les plus denses seront les structures les plus ioniques. Mais il faut faire attention que si elles vont être plus ioniques, il y aura un assemblage compact de différents polyèdres, d'où il n'y aura pas d'énormes cavités pour les ions lithium pour pénétrer. Donc, il va y avoir un compromis entre ces structures purement ioniques et ces structures covalentes. Et bien, c'est à partir de ça, notamment dans le cas des chalcogénures, donc vous voyez les structures ouvertes, que les premiers accumulateurs ont été réalisés. Et là, on remonte dans les années 1980 à Exxon, où notamment le matériau d'électrode TIS2, et en France d'ailleurs, à Nantes, a été utilisé, où donc vous avez ici la courbe électrochimique, vous avez la décharge dans laquelle les ions lithium rentrent dans ce réseau, et durant la charge, eh bien, ils sont retirés de ce réseau. Et dans ce composé, on peut même, dans le cas de cet oxyde lamellaire, lorsqu'on a la formule lithium-05-TIS2, par une simple montée en température, obtenir la structure spinelle lithium-TI2S4. À la même époque, et en parallèle, et en compétition d'ailleurs, les mêmes études ont été effectuées à Bell Labs sur le composé monodimensionnel, NBS3, où là, vous avez la courbe électrochimique. On peut, dans ce cas, mettre 3 lithium à un potentiel de 2,3-2,4. Mais ces matériaux, comme vous allez voir, ont été étudiés. Chacun de ces laboratoires a certainement passé plus de 15 ans ou 20 ans pour développer ces technologies et aucune d'entre elles n'ont été commercialisées pour les raisons qu'on va voir par la suite. Alors, de nombreux travaux ont porté sur ces chalcogénures en regardant d'autres structures. Et ici, vous avez les structures lamellaires de ZRS2, NBS2. Dans ce cas, vous avez les octaèdres. Dans ce cas, vous avez directement des prismes et ainsi de suite. Vous avez les structures de bandes indiquées pour ces matériaux. Et si on continue directement la ligne des métaux 3D, lorsqu'on passe ensuite du cobalt au fer, ainsi de suite, on a ce qu'on appelle ici des structures tridimensionnelles, des structures pyrites, dans lesquelles vous avez dans ce cas une pénétration de la bande P dans les bandes D, ce qui fait qu'on a un déversement des électrons de la bande P à la bande D. Et ça, eh bien, ça donne lieu à la chimie des trous ou des antiliaisons qui a été fortement étudiée à Nantes par le professeur Jean Rouxel de cela 20 ans. Donc voilà, si vous voulez, ces matériaux. Et cette chimie, eh bien, a été très riche, cette chimie des trous ou des antiliaisons, a été très riche pour préparer toute une quantité de sulfure vis-à-vis des propriétés d'intercalation et ainsi de suite. Alors la question, pourquoi ces matériaux n'ont jamais été finalement synthétisés ou commercialisés? Eh bien, la réponse est indiquée ici. Alors, le seul qui a essayé, c'est directement le MOS2, dont la structure est analogue à celle de NBS2, et c'est le premier matériau qui a été développé à Vancouver, puisque là-bas, il y a des mines de MOS2. Eh bien, ce matériau, c'est la technologie Moly Energy, qui, dans les années 1980, a essayé de commercialiser cet accumulateur, dont vous avez la photo ici. Accumulateur avec MOS2 comme électron négatif, et lithium comme positif, et lithium métal comme électron négatif. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et ce qui n'avait pas été, je dirais, anticipé par les différents chercheurs, c'est que lors de ce dépôt et de ce retrait de lithium, eh bien, le lithium ne va pas se déposer de façon uniforme, il va créer des dendrites. Et au long du cyclage, ces dendrites vont pousser. Et ce qui va y arriver, c'est qu'elles vont directement toucher l'électrode positive et qui va directement conduire un court-circuit, d'où à une explosion. Eh bien, c'est ce qui est arrivé en 1989, où, au Japon notamment, 3 ou 4 téléphones portables ont directement explosé dans les oreilles des utilisateurs. Et ça a été la fin de la technologie lithium-métal. Alors, pour remédier à cela, eh bien, on a proposé la technologie lithium-ion comme alternative. Et cette technologie lithium-ion alternative, c'est exactement celle que vous utilisez aujourd'hui, avec, dans ce cas, les matériaux que je vous ai mentionnés. Alors, bien sûr, dans ce cas, vous n'avez plus du tout de lithium métallique, d'où un avantage au niveau sécurité, et vous avez, dans ce cas, seulement des ions lithium. Okay. Et dans ce cas, lorsque vous chargez et déchargez, les ions vont passer d'électrode positive à électrode négative. La raison pour laquelle, au départ, on n'appelait pas cette technologie la technologie lithium-ion, mais on appelait cette technologie la technologie rocking chair, du mouvement des ions dans l'intérieur. Alors bien sûr, lorsqu'on fait cela, bien, il faut voir quand même qu'on va gagner en sécurité, mais il y a quand même une difficulté, c'est que maintenant, je vais avoir un autre matériau d'intercalation comme électrode négative, et je vais perdre un potentiel, car je n'ai pas intercalé au potentiel du lithium. D'où c'est la raison pour laquelle, bien, lorsque cette technologie est arrivée, il fallait des matériaux à plus haut potentiel. D'où on va voir maintenant comment le chimiste a répondu à ces demandes de la société. Alors, ces matériaux à haut potentiel, eh bien, il va falloir essayer de les synthétiser. Alors, vous avez tous compris maintenant, en termes d'électronégativité, je travaille avec le soufre. Si je vais de plus haut potentiel, je dois partir avec l'oxygène. D'où maintenant, je dois réaliser et dois synthétiser des matériaux avec l'oxygène. Alors, vous avez ces matériaux lamellaires et vous avez ces feuillets, et ces feuillets sont chargés négativement. Okay. Maintenant, si je passe avec l'oxygène, eh bien, cette charge négative va être augmentée. D'où c'est la raison pour laquelle il va être très difficile de synthétiser des composés lamellaires avec des oxydes. Okay. Mais on va y arriver si on joue sur des approches astucieuses. Ces approches astucieuses vont tout simplement consister, dans ce cas V2O5, où on va maintenant utiliser un métal avec un état d'oxydation élevé qui va pouvoir directement tirer les électrons vers lui-même et dépeupler les oxygènes, d'où des tensions beaucoup moins répulsives. Donc voilà une approche. Une autre approche, si deux feuillets se rapprochent ou veulent directement s'écarter, le seul moyen de faire, c'est d'aller mettre un genre de ciment entre eux, et ce ciment, on peut le faire en mettant des protons, comme dans le cas de MiOH2, ou alors directement du lithium, comme dans ce composé lithium-CO2. Eh bien, c'est effectivement ce composé lithium-CO2 qui a été développé basé sur le concept d'avoir des lithiums à l'intérieur. Et bien sûr, vous pouvez voir ici quelle va être la difficulté, puisque maintenant, j'ai mis finalement de la colle entre ces feuillets. Lorsque je vais utiliser mon matériau d'électrode, je vais retirer ces lithiums, et si j'en retire trop, eh bien, le composé va s'effondrer. Eh bien, c'est exactement le problème qu'il va y avoir. En effet, si maintenant je regarde nos accumulateurs qu'on a développé sur le cas des ions lithium-CO2, comme vous pouvez voir ici. Voilà les composés qu'on va regarder maintenant. Les composés lamellaires lithium-CO2, les composés tridimensionnels spinel, ou alors les polyanions. Et on va commencer par ces fameux lamellaires. Eh bien, lorsque Sony a mis sur le marché sa première batterie à ion lithium en 1990, eh bien, ils utilisaient ce composé lithium-CO2. Ce composé lithium-CO2, vous avez la courbe électrochimique ici, ça vous donne directement une capacité de 150 mAh par gramme. Okay. Si je regarde maintenant d'un point de vue plus chimique, ça veut dire que je suis capable de sortir 0,5 lithium de ce matériau. Et la raison pour laquelle je ne peux pas en sortir davantage, eh bien, c'est ce que je vous mentionnais. Si je sors plus de 0,5 lithium, eh bien, la structure va s'effondrer et le matériau ou la batterie ne fonctionnera plus. D'où, d'un point de vue recherche, il fallait trouver un moyen de stabiliser ces feuillets et de faire en sorte que l'on puisse directement sortir davantage de lithium. Et bien pour ce faire, on va tout simplement regarder à ces matériaux et on va jouer sur ce que adore le chimiste, la substitution cationique. Et on va dans ce cas reprendre ces composés et maintenant on va essayer d'aller modifier dans ces feuillets en remplaçant le cobalt par d'autres atomes de façon à donner à cette structure une certaine stabilité. Et pour ce faire, eh bien, on va étudier un diagramme ternaire dans lequel on a des composés au manganèse, au cobalt et au nickel. Et on va faire, dans ce cas, un grand nombre d'approches de substitution et voir la meilleure. Mais dans ce cas, il se trouve que le composé de formule 1/1/1/1 semble être le plus stable et permet de pouvoir retirer le plus de lithium de ce matériau. Alors pourquoi cette substitution ? Bon, bien sûr, il y a des idées derrière tout ça. Dans ce cas, on a du nickel plus 2. Ce nickel plus 2 provient du fait que le couple nickel plus 2, nickel plus 3 étant plus oxydant que le manganèse plus 3 et manganèse plus 4, bien ce cas, il va directement oxyder le manganèse en plus 4 et réduire lui-même en plus 2, et le cobalt, dû au champ cristallin, restera cobalt plus 3. Et grâce à ça, eh bien, on peut augmenter la stabilité de ces feuillets et obtenir des courbes électrochimiques ou des tenues en cyclage, comme indiqué ici, où maintenant, on est passé directement à 180 mAh par gramme. Et ça veut dire qu'en ce cas, pour vous, ça signifie que vous avez des temps d'autonomie allant de 10 à 15% supérieurs. Et vous allez voir que ce n'est pas la fin de l'histoire, car de cela à 5 ou 6 ans, eh bien, une autre substitution a eu lieu, c'est-à-dire que maintenant, on est allé mettre du lithium à l'intérieur de ces feuillets. C'est-à-dire qu'on a maintenant ce qu'on appelle ces composés, des composés riches en lithium, pour la bonne et simple raison qu'en dehors du lithium qui va se mettre entre les feuillets, eh bien, il y a également du lithium dans les feuillets. Et il se trouve que ces matériaux ont des capacités exacerbées. On en est maintenant à 280 mAh par gramme, comme vous le pouvez voir ici. Et l'avantage de ces matériaux, eh bien, c'est qu'ils ont, ils peuvent proposer un temps d'autonomie d'environ 30% de supérieur à ce qu'on a aujourd'hui. La difficulté, comme vous pouvez voir ici, c'est que la chute au potentiel lors du cyclage. C'est-à-dire que dans ce cas, si on utilise ces matériaux, eh bien, votre potentiel, après 20 cycles, 30 cycles, 40 cycles, ne sera pas le même. D'où, on ne peut pas les utiliser, et c'est la raison pour laquelle, au jour d'aujourd'hui, ils ne sont pas commercialisés. Alors, pour répondre à cela, eh bien, il va falloir, là aussi, comprendre ce qui se passe, comprendre ces mécanismes, autant au niveau de la capacité à exacerber que l'origine de cette chute au potentiel. Eh bien, là aussi, on va essayer d'attaquer le problème en faisant des substitutions cationiques. Et pour ce faire, eh bien, on a regardé ces composés et vous apercevez que le système est très compliqué puisqu'en ce cas, on a trois couples redox que sont le manganèse, le cobalt et le nickel qui rendent l'étude très difficile. Pour simplifier le système, eh, nous sommes passés à des matériaux de la quatrième période dans lesquels on remplace tous ces métaux 3D par du ruthénium et de l'étain. Et comme l'étain est transparent électrochimiquement, on a des composés avec un seul couple redox. Et par conséquent, on a simplifié notre système en mettant des atomes plus gros qui seraient importants pour la chute au potentiel et on peut étudier ce qui se passe. Et lorsqu'on a fait cela, eh bien, on a préparé des composés qui montraient exactement les mêmes capacités que ces composés à la base de métaux 3D avec, dans ce cas, comme vous pouvez voir ici, des chutes au potentiel qui étaient relativement minimes. D'où, on avait parfaitement simplifié le système et maintenant, on pouvait comprendre, finalement, quelle était l'origine de cette capacité qui va bien au-delà des capacités théoriques que l'on pouvait escompter par simple réduction cationique. Bien, grâce à cela, on a pu effectivement étudier les mécanismes imbriqués dans ces réactions d'insertion et de désinsertion. On a pu, par exemple, par des mesures de spectroscopie d'électrons, excusez-moi, montrer, comme indiqué ici, en regardant l'énergie de liaison des métals oxygène, que l'on avait deux types d'oxygène, un oxygène cristallin et un autre pic qui correspondait à un oxygène de densité plus faible à plus haute énergie de liaison qu'on a attribué directement à un couple peroxo. Alors un couple peroxo, ce n'est rien de bien particulier, c'est exactement le type d'oxygène que vous avez dans l'eau oxygénée, c'est-à-dire O2 de moins. Et on a pu confirmer cela grâce à des mesures de résonance paramagnétique électronique, comme indiqué ici, où on peut apercevoir l'apparence ou l'apparition d'un signal qui est typique ou qui est, je dirais, la caractéristique de ce groupe peroxo. Et c'est ainsi qu'à partir de cela, eh bien, on a pu proposer le mécanisme qui est responsable pour cette capacité supérieure, où dans ce cas, on a un jeu de structure de bande dans lequel, vous pouvez voir ici, les bandes D du métal et les bandes P de l'oxygène se recouvrent. Et on a, dans ce cas, un déversement d'électrons du ruthénium vers, ou des bandes P vers les bandes D, c'est-à-dire que le ruthénium, dans ce cas, va être réduit alors que l'oxygène va être oxydé. C'est-à-dire qu'on va créer des trous sur l'oxygène qui, est, finalement, va devenir moins électronégatif que le métal, le ruthénium, comme indiqué ici. Et cela il nous a permis, finalement, de montrer, je dirais, la première évidence pour ce nouveau mécanisme dans les oxydes dans lequel on a la création des groupes peroxo, et ces groupes peroxo sont responsables pour la capacité exacerbée que l'on trouve dans ces matériaux. Alors, à partir de cela, eh bien, ça a ouvert, si je peux dire, toute une nouvelle voie de synthèse de nouveaux matériaux, dont de nombreux groupes dans le monde sont intéressés, et notamment un groupe japonais qui, tout récemment, vient de trouver un nouveau composé, de la formule est indiquée ici, un composé lamellaire, dans lequel maintenant c'est des métaux 4D, comme indiqué, et qui fonctionne exactement sur le même principe, qui fait appel à ce réseau anionique au niveau de l'activité électrochimique. Et dans ce cas, on a des capacités, comme on peut voir ici, de 300 mAh par gramme. D'où toute une nouvelle direction s'ouvre dans la recherche de matériaux à plus haute capacité, basée maintenant sur l'addition de la capacité cationique et de la capacité anionique. Et vous remarquerez là aussi que maintenant, le métal qui existe ici, c'est un niobium, c'est un métal de la quatrième période. C'est-à-dire c'est un métal qui est relativement lourd. Et rappelez-vous, au début, je vous ai dit, il faudra directement des matériaux légers. Et bien maintenant, grâce à cette activité anionique excédentaire, on va pouvoir utiliser des métaux relativement plus lourds. C'est-à-dire qu'on va ouvrir un autre domaine dans le tableau périodique pour faire de la recherche de matériaux d'électrodes. Donc voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous dire sur tous ces matériaux d'électrodes lamellaires. Alors bien sûr, ces matériaux d'électrodes lamellaires sont basés sur des éléments comme le cobalt, qui ne sont quand même pas des plus abondants, comme vous avez vu l'année en fois. Donc maintenant, on va changer de matériaux et voir quelles sont les autres classes de matériaux qu'on va pouvoir utiliser. Et cela va mener à mentionner des matériaux à base de manganèse ou alors, sur ces composés lamellaires, des matériaux à base de fer, ainsi de suite. Et vous voyez qu'en ce cas, si je reste toujours sur la même famille de lamellaires, je peux caractériser d'autres matériaux, notamment des matériaux nickel, qui sont encore des lamellaires, ou maintenant, en utilisant ces différents couples redox, je vais pouvoir obtenir du nickel à l'état d'oxydation 4,2-4,3, alors que je n'étais au départ qu'aux alentours de 4 volts. Et cela est dû, comme on peut voir ici, à des ajustements de la structure de bande et de faire en sorte qu'on va pouvoir également avoir un composé polyanionique qui va régler le potentiel, comme l'on peut voir ici. C'est ainsi qu'on peut, en passant du molybdène au tungstène ou au sélénure, obtenir des potentiels différents. Donc voilà directement pour conclure sur ces matériaux lamellaires. Si je passe maintenant à une autre classe de matériaux qui est utilisée notamment dans le cas du véhicule électrique, c'est le cas des oxydes tridimensionnels, c'est-à-dire des composés spinel, dont la structure est indiquée ici, où vous avez dans ce cas des tunnels pour accepter et relarguer des ions lithium. Alors ces composés, là aussi, qui datent de 20 ans, je vais vous montrer comment une approche de chimie a permis de les améliorer de façon à ce qu'ils soient commercialisés. Alors en effet, ces composés avaient un avantage énorme au départ en raison de leur coût, de leur non-toxicité et de la tension élevée. Mais la difficulté, c'est que vous mettiez ces matériaux dans un accumulateur, qu'est-ce que vous obteniez? Voilà directement un accumulateur au départ, après du cyclage. Vous apercevez ici une carte de répartition des différents éléments, et on s'aperçoit que lors du cyclage, du manganèse passe de l'électrode positive à l'électrode négative. D'où automatiquement, ce n'était pas viable pour des applications. D'où la question était, pourquoi cela arrive? Si on regarde la courbe électrochimique de ce composé, et si on regarde la formule, vous voyez qu'ici, j'ai une courbe électrochimique dans laquelle le potentiel en fonction de X, aux alentours de 4 volts, et à X égale 1, j'ai une très grande chute de potentiel, une très grande transition, qui correspond au moment où j'ai également la quantité exacte de manganèse plus 3 et manganèse plus 4. Et si on regarde ce que c'est, ça veut dire qu'en ce cas, si on regarde le manganèse plus 3, le manganèse plus 3 a 4 électrons. Et ces 4 électrons, ils sont répartis dans les orbitales D ou T2G et EG, comme indiqué ici. Vous voyez que j'ai un électron célibataire, et ça, c'est la situation identique, ou je dirais requise, pour avoir un effet Yantelaire. Et un effet Yantelaire va entraîner une distorsion de l'octaèdre, c'est-à-dire un changement de volume. Et ce changement de volume, comme on peut voir ici, va être totalement néfaste au comportement de l'électrode. C'est-à-dire, au cours du cyclage, vous allez avoir un broyage électrochimique et des particules vont perdre tout simplement le contact électrique et vous avez une perte de la percolation électrique. Donc, par conséquent, il fallait remédier à ça. Et pour remédier à ça, tout simplement, il fallait s'écarter de ce rapport manganèse plus 3, manganèse plus 4, qui est 2. Une fois de plus, on va jouer sur la substitution chimique pour tenter de s'éloigner de ce rapport manganèse plus 3, manganèse plus 4, c'est-à-dire enrichi entre composés en manganèse plus 4. Eh bien, on va regarder deux types de substitutions en regardant tout d'abord les diagrammes ternaires de ces composés. Et si on regarde les diagrammes ternaires de ces composés, dans lesquels maintenant je mets la face totalement des lithiés lambda meno 2, la face lamellaire lithium meno 2 et lithium 2 meno 3, comme indiqué ici, eh bien, je m'aperçois que lorsque je suis à la phase lithium meno 4, j'ai tout un triangle dans lequel je vais pouvoir manœuvrer avec soit le taux de lithium, soit le taux d'oxygène, soit le taux de manganèse. Et bien sûr, je vais m'intéresser à cette ligne droite ici, dans laquelle je vais avoir un rapport cation-anion qui va être constant, et je vais voir comment va changer les propriétés. Et bien, si on regarde cela, on s'aperçoit qu'on peut, dans ce cas, modifier la teneur en lithium, c'est-à-dire mettre du lithium en site octaédrique et avoir les composés lithium plus X, Mn2-X au 4, et on s'aperçoit que lorsqu'on fait ça, eh bien, on a une meilleure tenue en cyclage. Et on peut jouer une approche relativement identique, jouer sur la substitution anionique, comme indiqué ici, ou dans ce cas, eh bien, on peut changer la teneur en oxygène. Et si je change ma teneur en oxygène, je vais modifier mon redox interne, qui est le rapport Mn plus 3 ou Mn plus 4, et je peux également obtenir des composés qui vont être refroidis lentement, comme indiqué ici, et qui auront des performances. Alors, tout ça, c'est pour la petite histoire. C'est des fois, comme quand on fait de la recherche sur des sujets aussi importants, on a de la compétition, et vous avez ici directement les travaux qui sont faits à Argonne et les travaux que je faisais aux États-Unis en même temps. Vous voyez que les brevets ont été déposés à un mois d'écart sur ces deux approches pour donner des accumulateurs, je dirais, plus performants. Ça, c'était directement les premiers travaux. Ce n'était pas encore la panacée. Il fallait améliorer ces systèmes. Et pour les améliorer, eh bien, on va encore continuer sur des substitutions. Alors, bien sûr, on peut faire des substitutions par des atomes divalents, mais si on fait cela, eh bien, automatiquement, on va perdre de la capacité, puisque finalement, je vais mettre un atome mort. Je peux également substituer par le fluor, mais bien dans ce cas, eh bien, je vais directement affecter le rapport Mn plus 4 à Mn plus 3, mais dans le sens opposé. D'où, je vais être obligé de faire une compensation par une substitution cationique. Et dans ce cas, eh bien, on peut faire la substitution duelle, que j'appellerai, où on va substituer à la fois du manganèse par l'aluminium et de l'oxygène par le fluor. Eh bien, grâce à cela, grâce à cette double approche, eh bien, on a pu, dans ce cas, obtenir des matériaux très stables électrochimiquement, comme indiqué ici. Et grâce à ces travaux, je dirais, c'est ainsi qu'on peut utiliser aujourd'hui les accumulateurs lithium-ion, lithium-manganèse MnO2-4 carbone pour les applications voitures électriques. Et c'est ce genre d'accumulateur combiné avec les matériaux que je vous mentionnais précédemment qui sont utilisés dans la technologie Renault-Nissan qui sont développés aujourd'hui. Donc voilà, si vous voulez, les genres de recherche. Alors, plus récemment, eh bien, il y a toute une autre classe de matériaux qui se sont développés. Et cette autre classe de matériaux sont ce qu'on appelle les composés polyanioniques. Et c'est ceux que je vais regarder pour le reste de cet exposé. En effet, ces composés polyanioniques, comme on peut voir ici, sont les phosphates et les silicates, les borates et les sulfates. Et je vais vous montrer finalement pourquoi ces composés, quel est leur avantage et pourquoi ils suscitent tant d'engouement aujourd'hui. Alors tout d'abord, effectivement, c'est quels sont ces composés polyaniques? Alors ces composés polyaniques, dont vous voyez les structures ici, bien sûr, ils sont faits de polyèdres et tétraèdres, avec l'avantage, c'est qu'on va avoir une très grande, je dirais, multitude de composés, où on peut changer la nature de l'anion, comme on peut voir ici. On va pouvoir également changer la nature du métal 3D, donc on peut avoir une combinaison très importante de matériaux. On va pouvoir ajuster les potentiels, on va pouvoir contrôler la stabilité électrochimique, mais comme vous voyez les structures, vous voyez en ce cas, vous avez le groupement métal-oxygène qui va être ils sont isolés. Ça veut dire qu'en ce cas, ces matériaux vont être de très faibles conducteurs électroniques. Et rappelez-vous, au début, je vous ai dit, pour avoir un matériau d'insertion, il nous faut des électrons. Et ça va être la difficulté majeure. La faible conductivité, et également, je remplace dans ces matériaux l'oxygène par une entité XO4. C'est-à-dire que je remplace un poids moléculaire de 16 par un poids moléculaire de 80-90. Et rappelez-vous, M est au dénominateur. Donc ça ne va pas être bon pour directement ma densité d'énergie. Mais on va voir comment on peut profiter de ça. Alors, parmi ces composés, ceux qui ont été étudiés il y a le plus longtemps, ce sont les composés de type nazicone, qui, dans ce cas, eh bien, sont constitués de ces motifs lanternes, avec trois tétraèdres et deux octaèdres pour constituer ces structures dans laquelle une lanterne est entourée de six autres lanternes, laissant entre elles des espaces considérables pour directement accueillir les alcalins. Et bien, grâce à ça, on peut former une multitude de matériaux qui, comme l'indiqué ici, donc je vous représente les courbes électrochimiques, le potentiel en fonction de X, et bien, on voyait qu'on a toute une panoplie, tout un panel de potentiels. Bien, c'est ce genre de matériaux qui sont très intéressants d'un point de vue électrochimique, mais de nouveau, comme je vous ai dit, qui posent des problèmes au niveau de conductivité. Alors, de tous ces composés polyanioniques, celui qui a reçu le plus grande attention est ce fameux lithium FePO4. C'est-à-dire qu'en ce cas, on va regarder tous ces composés à base de fer et on va voir comment, à partir du tableau périodique, eh bien, on peut prédire les composés qui vont être intéressants. Alors, vous voyez, dans ce cas, je reprends mon octaèdre et je prends directement un tétraèdre et il va y avoir ce fameux transfert. Donc, si je regarde mon tableau périodique, je vous ai expliqué que, finalement, le bore sera moins électronégatif que le silicium, moins que le phosphore, moins que le soufre. Donc, par conséquent, eh bien, très simplement, on peut regarder cette structure de bande et montrer la séquence indiquée ici. Vous avez lithium FeO2. Maintenant, lorsque je remplace l'oxygène par un composé polyanionique, je vais augmenter le potentiel du silicium au bore, au phosphore et au soufre. Comme vous pouvez voir, on peut tout simplement, à partir de ces simples concepts d'électronégativité, avoir une idée sur les structures que l'on veut préparer et les potentiels que l'on va obtenir. On n'a pas les valeurs exactes, mais on sait du moins dans quel sens ça va aller. Bien, on va prendre un de ces composés, qui va être le composé lithium FePO4. Ce composé lithium FePO4, là aussi, rien de nouveau, puisque c'est un minéral connu sous le nom de tréphilite, qui a la structure indiquée ici, qui est constituée, comme je vous l'ai mentionné, d'octaèdres FeO6 ou lithium 6 avec des tétraèdres FeO4. L'électrochimie est indiquée ici. Vous voyez que ce composé, si j'arrivais à sortir un lithium, eh bien je pourrais avoir une capacité de 170 mAh par gramme, qui est l'équivalent, rappelez-vous, de lithium CO2. Okay. Malheureusement, je vous ai dit, ces composés, ils sont très faibles ou très pauvres électroniquement. D'où la difficulté, c'est que lorsque, il y a 20 ans de ça, eh bien, Jean Godinov a essayé d'utiliser ce composé comme matériau d'électrode, eh bien, il a obtenu cette courbe électrochimique médiocre dans laquelle il ne pouvait sortir que 0,5 lithium. Pour la bonne et simple raison qu'il n'avait pas tout simplement une électrode qui était constituée correctement pour avoir cette percolation électronique et ionique. D'où, il y a eu tout un travail sur la manipulation de ces matériaux, comment les traiter pour en faire de bons matériaux d'électrode. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, je dirais, le concept qui s'est développé grâce à ces composés polyanioniques, et qui n'est pas spécifique au lithium FePO4, mais à tous les composés anioniques, c'est dans l'amélioration de la cinétique des électrodes. C'est-à-dire que ces électrodes qu'on voit ici, eh bien, les boules en bleu représentent votre partie active et le vert, la connexion. Et je dirais, c'est comme un réseau de neurones, il faut qu'ils soient tous bien connectés pour que votre cerveau fonctionne correctement. Eh bien, l'électrode, c'est la même chose. Et dans ce cas, eh bien, vous voyez que si maintenant je prends une électrode, comme indiqué ici, et si je passe une particule, je dirais massive à une particule nanométrique, je vais réduire dans ce cas le diamètre ou le rayon par un facteur 10, et bien ce cas, le temps pour l'ion de voyager du cœur à la surface et bien va être directement divisé par 100. D'où, je ne vais pas changer la valeur intrinsèque dans la conductivité ionique, mais je vais changer tout simplement le temps de voyage. Mais également, si je fais ça, je n'aurai que les ions. Il me faut les électrons. Et pour les électrons, et bien, si je n'ai pas de percolation électronique, seules les particules éclairées vont être actives. Pour utiliser toutes mes particules, eh bien, je vais devoir directement enrober ma particule initiale avec un conducteur métallique. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, on va développer toute une chimie de particules cœur-couronne pour avoir des matériaux actifs. Eh bien, c'est ce qui s'est fait sur ces matériaux. Et je vous montre ici un exemple, dans le cas de lithium FeO4, où par des méthodes de chimie douce, de synthèse de chimie douce, comme indiqué ici, on a pu préparer des particules cœur-couronne, dont vous voyez en ce cas, eh bien, la cristallinité parfaite de lithium FeO4, et juste ici, en dessus, vous avez tout simplement une couche de nanocarbone de quelques angstroms qui va permettre d'améliorer la conductivité électrique. Et bien, c'est grâce à cela qu'on a pu améliorer ces matériaux. Et en seulement, je dirais, 10 ans, et bien, on a pu passer de matériaux qu'on connaissait et qu'on jetait directement dans la poubelle auparavant car on ne savait pas utiliser, à des matériaux dont les performances électrochimiques sont excellentes et qui aujourd'hui eh bien, suscite l'engouement de beaucoup d'industriels pour les applications dans le véhicule électrique. Vous avez vu ici l'histoire d'un matériau qui, de cela, 10 ans, était délaissé. Et c'est grâce à des améliorations au niveau, je dirais, morphologie, au niveau amélioration des électrodes et surtout connaissance de la synthèse à l'échelle nanométrique qui nous a permis de rendre ces matériaux utilisables. Donc voilà, si vous voulez, ces genres de matériaux. Alors ensuite, eh bien, il y a d'autres composés qui ont été utilisés, notamment lithium FeBO3. Alors pourquoi ce composé est utilisé? Je crois que vous avez tous compris. Dans ce cas, on utilise le bore, qui est un élément très léger. D'où, effectivement, ce composé est très intéressant. On peut en faire la synthèse par les réactions indiquées ici, c'est-à-dire les réactions d'autocombustion. La structure est indiquée ici, constitue directement de chaînes de bipyramides triangulaires FeO5 avec directement des plans de BO3. Mais, ce qui est important, au niveau électrochimique, vous voyez qu'ici, on a un potentiel de 2,75 volts. Et là aussi, vous pouvez vous y attendre, je vous ai remis l'échelle électronégativité, et c'est parfaitement normal, puisque le bore est beaucoup moins électronégatif que le phosphore, il était normal de trouver un potentiel qui soit plus bas. On peut également aller sur des matériaux qui sont encore plus connus, plus communs, et le suivant est bien sûr le silicate, puisque le silicium est un élément très abondant, et ce que vous avez ici, c'est toujours pareil, la synthèse du composé, sa structure, qui dans ce cas ne contient pas des octaèdres et tétraèdres, mais seulement des tétraèdres, et dans ce cas, eh bien, si on regarde l'électrochimie, on a un potentiel de 2,85 volts. De nouveau, la séquence, on pouvait directement l'espérer, basée tout simplement sur des électronégativités. Alors bien sûr, tout ça, on peut le faire sur la base du concept d'électronégativité, mais il y a les théoriciens qui sont meilleurs que nous, ils vont faire des calculs DFT très puissants pour nous dire finalement à combien vont se trouver ces potentiels. Vous avez ici les différents composés dont je mentionnais. On va, dans ce cas, utiliser les différents X avec différents cations. Et vous avez toute une série de composés dont on peut connaître approximativement les potentiels. Okay. Et ça, c'est basé sur des calculs DFT dont on vous mentionnera par la suite. Et de tout cela, eh bien, un composé qui est très intéressant, c'est une phase au phosphate où on peut avoir des potentiels approchant les 5 volts, mais dans ce cas, la difficulté est de sortir tout le lithium. D'où, finalement, vous voyez que on peut directement déterminer par de simples concepts électrochimiques les potentiels, et bien sûr, tout ça peut être confirmé par des calculs DFT. Alors maintenant, je vous ai mentionné finalement ces calculs. Je vous ai mentionné également ce qu'on cherchait, mais si on veut augmenter la densité d'énergie, il y a deux possibilités. C'est tout simplement d'augmenter le potentiel, comme je l'ai mentionné, ou alors d'augmenter le nombre d'électrons. Et la question qui se pose, c'est est-ce que l'on peut avoir des composés dans lesquels on va pouvoir sortir deux électrons plutôt que d'un électron. Et si on le fait, eh bien, dans ce cas, on pourrait directement doubler les capacités et bien sûr la densité d'énergie. Eh bien, pour cela, je vous ai mentionné des composés qui, théoriquement, ont ce potentiel. En effet, si vous prenez la phase lithium 2, M et SiO4, eh bien, on peut voir qu'en ce cas, je peux sortir un lithium en jouant sur le redox plus 2 plus 3 et je pourrais théoriquement sortir le dernier lithium et jouer sur le potentiel plus 3, plus 4. Eh bien, lorsqu'on veut faire ça, eh bien, on peut faire ça à température ambiante ou à haute température, eh bien, on s'aperçoit qu'on ne peut pas sortir cet extralithium. Pourquoi ? Parce qu'en ce cas, on va directement essayer d'avoir des états d'oxydation relativement élevés. Dans le cas du fer, on va avoir des fers plus 4, qui est un état d'oxydation très difficile à avoir. Et ce qu'il faut que vous réalisiez, c'est que lorsque je fais ça, je dois sortir deux électrons d'une liaison. Et cela, eh bien, c'est très difficile de le faire sans briser la liaison et sans faire en sorte que les structures s'effondrent. Donc voilà, si vous voulez, les difficultés que l'on a sur ces matériaux. Alors maintenant, eh bien, je vais continuer sur ces structures polyaniliques et me focaliser plus directement sur les composés au fer. Et je vais vous montrer là, finalement, une approche très simple, comment on va pouvoir synthétiser toute une famille de composés par de simples approches déductives, et ainsi de suite. Et je vais utiliser parfaitement les concepts d'électronégativité que je vous ai mentionnés. Alors, ce qu'on veut faire ici, c'est finalement, je vous ai dit que lithium FeBO4 est un matériau d'électrode qui est excellent, mais il a des capacités de 170 mAh par gramme, mais ce qui était l'aspect le plus, je dirais, embêtant, c'est que son potentiel n'est que de 3,45 volts. D'où, par conséquent, il va falloir essayer d'augmenter ce potentiel. Eh bien, on va tout simplement raisonner de façon relativement simple. Je vais reprendre ce composé, où maintenant, je vous remets cette image dans laquelle vous allez le fer en site octaédrique et le phosphore en site tétraédrique. D'où par conséquent, vous avez tous compris maintenant, si je veux augmenter le potentiel, qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien, je dois tout simplement remplacer l'oxygène par le fluor, ok, et je dois directement remplacer le phosphore par un groupement plus électronégatif. Ok ? Donc ça veut dire que si je veux faire ça, je dois être capable de synthétiser un composé lithium FSO4F. Donc voilà directement le composé que j'ai dans la tête et que je veux synthétiser. Et si je regarde ce composé, sa structure, eh bien, il devrait avoir une structure du type taborite, vu sa formule. Et si je regarde tout simplement les différents composés que l'on connaît déjà, vous avez directement un hydroxyde de phosphate, vous avez un fluorophosphate, et ainsi de suite. Et vous voyez qu'en ce cas, lorsque je passe de l'hydroxyde au fluorophosphate, mon potentiel augmente à 0,8 électronvolts. J'ai également un hydroxysulfate, d'où si je peux faire ce composé, de simples calculs, directement sur une enveloppe, eh bien on peut directement prédire un potentiel de 3,6 volts. Bon, tout ça est beau, mais la question c'est comment préparer ce composé ? Puisque s'il n'existait pas, c'est qu'il y a eu des difficultés. Et en effet, une des plus grandes difficultés, eh bien, c'est tout simplement que les sulfates eh bien, sont connus pour leur solubilité dans l'eau. Et cela est dû au fait que dans les solutions, eh bien, les liaisons MO ont une chance égale de se former soit avec des groupes sulfates, soit avec des groupes avec des molécules d'eau. Pour la bonne et simple raison, c'est que la valence de la liaison est exactement la même, 0,17 dans les deux cas. Okay. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, il y a des difficultés pour synthétiser ces composés en milieu aqueux. D'où c'est la raison pour laquelle eh bien, on a regardé des alternatives et on a essayé d'utiliser les liquides ioniques. Et dans les liquides ioniques, eh bien, dans ce cas, qui ne sont rien d'autre finalement que des sels fondus comme le sel de cuisine, mais qui sont liquides à température ambiante et qui sont basés sur des cations et des anions organiques, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, c'est grâce à ces composés que nous avons essayé de préparer de nouveaux matériaux. Et en effet, on a tout simplement fait réagir, comme indiqué ici, ce sulfate de fer avec du fluorure de lithium dans le liquide ionique, et on a obtenu un composé de formule indiqué ici, qui avait, comme anticipé, la structure taborite. Alors la question est de savoir pourquoi ce composé s'est formé, et lorsque vous faites des réactions chimiques, des fois, lorsque vous avez un nouveau matériau, c'est très intéressant, mais encore plus passionnant, c'est de savoir quel est le mécanisme par lequel ce composé s'est formé. Eh bien, si on regarde, dans ce cas, avec le matériau au départ, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une relation directe entre la structure du matériau au départ et la structure du matériau d'arrivée. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on a les mêmes cavités. La seule différence, c'est qu'on a remplacé une molécule d'eau par un ion fluor, ou F-, qui, en même temps, a engendré l'intercalation d'un groupement lithium plus pour rendre le système électronégatif. Eh bien, ayant compris cela, on a pu synthétiser toute une famille de composés basés sur le même principe qui contenait directement de lithium, du sodium, du potassium, et ainsi de suite. D'où, pour montrer, comme je l'ai mentionné auparavant, eh bien, qu'il est très important de comprendre les mécanismes réactionnels, car c'est à partir de là qu'on peut synthétiser de nouveaux composés. Eh bien, ces composés, ils ont des structures également très riches, comme je peux vous montrer ici, où, en fonction de la nature de M, eh bien, on peut, dans ce cas, avoir différents types de structures, taborite, silamide. On peut également, en fonction de la nature de A, avoir, même dans un cas, comme indiqué ici, des composés qui sont des composés très importants pour l'optique non linéaire. Eh bien, toute cette nouvelle chimie, finalement, est en train de se comporter de façon identique à celle des phosphates titaniles qui ont été déjà synthétisés auparavant. Et les mêmes propriétés peuvent s'obtenir dans ce cas. Alors, pourquoi ces matériaux sont intéressants d'un point de vue électrochimique ? Eh bien, certains d'entre eux, dont notamment la phase lithium-FSO4F, eh bien, ont un potentiel de 3,6 volts, comme indiqué ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, ces composés se décomposent à des températures de 320 degrés C et ils se dissout dans l'eau. Et cela explique la raison pour laquelle ils n'avaient jamais été synthétisés auparavant. Okay. D'où la question aussi, c'est de savoir, est-ce que l'on peut avoir des matériaux avec des potentiels plus élevés ? Alors bien sûr, on se retourne vers des calculs théoriques, et si on regarde les calculs théoriques, une fois que la structure est connue, ainsi de suite, eh bien effectivement, on peut moduler les potentiels en fonction du terme U, et on s'aperçoit qu'on voit les matériaux au fer avec 3,6, 3,6, et on peut avoir des composés au cobalt et au nickel avec des potentiels supérieurs. Mais si vous vous rappelez les éléments 3D, on a le fer, mais on a le manganèse, le fer, le cobalt et le nickel. La question est, pourquoi le manganèse n'est pas là ? Bien, en effet, le manganèse n'est pas là, et, soi-disant, il y a le fait que ce soit du manganèse, il y a le fait que la structure est également différente, puisqu'on a une structure triplite plutôt qu'une structure taborite. Eh bien, on a essayé de regarder cela en synthétisant différents types de matériaux. Et je vous remontre ici exactement la même synthèse que précédemment, okay, mais cette fois effectuée par une approche tout solide à basse température. Et qu'est-ce qu'on a obtenu ? Eh bien, on a obtenu une structure triplite, comme indiqué ici. D'où, comme vous pouvez voir ici, eh bien souvent, en chimie du solide, c'est seulement les inattendus qui sont les plus intéressants. Et dans ce cas, eh bien, vous allez voir que cette structure, ou ce composé, eh bien, effectivement, présente un potentiel redox de 3,9 volts et qui est le potentiel le plus haut qui a jamais été observé dans un composé inorganique pour le couple redox fer plus 3, fer plus 2. Donc, tout cela pour vous montrer que l'on peut, par ces approches, je dirais, déductives, préparer de nouveaux composés pouvant être intéressants. Et en effet, si je compare maintenant les densités d'énergie en fonction du potentiel et de la capacité, voilà les oxydes dont je vous ai mentionné auparavant, le fameux lithium FPO4, le composé à 3,6 volts, et maintenant, si je mets ce nouveau composé, eh bien, il est indiqué ici. Vous voyez que dans ce cas, j'ai réussi à obtenir un composé avec une densité d'énergie qui est supérieure à celle de lithium FPO4. Il n'y a pas un pourcentage énorme, mais de 5 à 10%. D'où la question qui se pose maintenant, on peut dire, dans le cas du développement durable, est-ce que le fluor est tolérable ? Ou pouvons-nous préparer des matériaux sans fluor ? Eh bien, ce qu'on va voir maintenant, c'est effectivement, on peut. Et vous allez voir une fois de plus l'approche qu'on va prendre, l'approche par analogie pour préparer ces nouveaux matériaux. Et pour ce faire maintenant, eh bien, on va se baser sur largement la quantité importante de minéraux qui existent dans les tables, et ainsi de suite. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, si je veux remplacer le fluor, il y a des matériaux ou des minéraux qui existent avec un groupement hydroxyle. Donc, par conséquent, je devrais pouvoir préparer ces sulfates avec des groupements hydroxyle. Eh bien, c'est ce que nous avons tenté de faire. Et vous avez ici la synthèse qu'on a fait effectuer cette fois par des broyages mécaniques. Et vous voyez ici la formule. Ce n'est pas dans ce cas une structure taborite. Là aussi, c'est encore une surprise. Mais c'est une structure lamellaire, comme indiqué ici, dont le potentiel est de 3,6 volts. D'où, vous avez un exemple, une fois de plus, où la complexité de la chimie, où il y a du polymorphisme, et on n'arrive pas à savoir quelles sont les structures qu'on va obtenir, taborite, triplite, taborite, composée à couche, ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, les mystères de la chimie. Alors, bien sûr, la question ensuite, c'est est-ce que l'on peut préparer des composés sans groupement hydroxyle pour avoir directement des poids moléculaires moindres ? Eh bien, on va voir que là aussi, on peut préparer ça. Et une fois de plus, eh bien, on va tout simplement s'inspirer de la minéralogie. En effet, je veux préparer maintenant des sulfates sans groupement hydroxyle et sans fluor. Eh bien, je regarde directement dans la minéralogie, et vous voyez qu'il y a une grande quantité de minéraux, comme indiqué ici. Et certains, je vais essayer de regarder ceux qui présentent une structure lamellaire avec des ions alcalins à l'intérieur. Et dans ce cas, je prends directement la blodite, qui est un composé de magnésium et de sodium. Et vous voyez que j'ai une structure que j'aime, c'est une structure bidimensionnelle. Alors la question, lorsque vous regardez ce composé, effectivement j'ai du sodium, mais je n'ai aucun élément réducteur, c'est-à-dire que j'ai du magnésium. Donc systématiquement, l'approche qu'on va avoir, est-ce que je peux faire ce composé en remplaçant le magnésium par le fer ? Mais effectivement, je peux faire ce composé avec le sodium, et ce composé est actif électrochimiquement. Mais alors, regardez ici, vous voyez qu'en ce cas, j'ai 4 molécules d'eau. Et tout ça, pour moi, c'est un poids et c'est une perte. D'où je veux simplement essayer de préparer ce composé. Et effectivement, je peux préparer ce composé par une réaction de déshydratation et obtenir cette phase qui est de nouveau active électrochimiquement. D'où, lorsque vous en êtes ici, la question c'est, est-ce que je peux préparer ces composés au lithium ? Et est-ce que je peux faire les phases lithium-2, FeSO4 deux fois ? Eh bien, c'est ce qu'on a essayé de faire. Eh bien, on peut effectivement préparer ces phases par soit en milieu liquide ionique, soit par broyage mécanique pour obtenir ce composé. Et là aussi, lorsqu'on comprend la méthode de synthèse, eh bien, on peut préparer toute une famille de phases avec, une fois de plus, une surprise. Dans un cas, eh bien, on a directement la même composition, mais une structure différente, c'est-à-dire qu'on a un polymorphe différent. Et ces composés, eh bien, ont un potentiel, comme vous pouvez voir ici, de 3,85 volts. Donc voilà, si vous voulez, tout ce que l'on peut faire. Alors, je vais arriver au terme de cette présentation, dans laquelle je vais résumer un peu les composés dont je vous ai parlé, c'est-à-dire, voilà tous ces composés qu'on a pu synthétiser. Ça, dans ces 5 dernières années. Mais il y a quand même des questions qui demeurent, qui sont les composés au manganèse. En effet, si je prends ces structures, ou tous ces composés, eh bien, lorsque je mets du fer, ici, j'ai une activité électrochimique. Si je mets du manganèse, je n'ai aucune activité. Et la question, bien sûr, c'est pourquoi. Et c'est un challenge pour les théoriciens. D'où, pour conclure cet exposé, eh bien, j'ai essayé de vous montrer finalement comment on pouvait se concevoir des matériaux. Au niveau de la composition, au niveau de l'élaboration et au niveau de la fonction. Au niveau de la composition, je vous ai montré qu'il était important d'opérer par analogie et surtout par intuition également, à partir des différentes bases, comme la minéralogie, ainsi de suite. On a pu préparer de nouvelles familles d'hydroxysulfate, de fluorosulfate, ainsi de suite, mais finalement, ce qui est le plus intéressant en chimie du solide, c'est ce qui est inattendu, lié au polymorphisme et l'importance de faire toujours des manips et des essais. Au niveau de l'élaboration, eh bien, je vous ai montré une nouvelle méthode de synthèse qui n'était pas du tout connue en chimie inorganique, bien connue en chimie organique, qu'on a appliqué avec succès et qui nous a permis d'obtenir un grand nombre de composés et de nouvelles faces. Et enfin, au niveau de la fonction, je vous ai mentionné comment, à partir de simples concepts d'électronégativité, on peut ajuster les potentiels redox et on peut finalement préparer des matériaux sur demande au niveau des potentiels. Alors bien sûr, tout ça c'est bien beau, mais c'est 6 ans de travail pour préparer 50 nouveaux matériaux, dont seulement 5 sont utiles. Alors la question est, comment pouvons-nous accélérer cette recherche sur les matériaux? Alors bien sûr, vous avez le tableau périodique, et vous avez, malgré qu'on a enlevé pas mal d'éléments, il y a encore beaucoup de combinaisons, et le chimiste, je pense, peut s'amuser pendant longtemps à préparer de nouveaux matériaux. Il peut être innovant au niveau des méthodes de synthèse, mais la difficulté, c'est que lorsqu'on voit toutes ces combinaisons, eh bien, ce jeu peut rapidement se tourner en cauchemar. C'est-à-dire, comment trouver le meilleur matériau et le plus rapidement possible? Alors, à la base de cet exposé, ce qui nous serait utile dans un premier temps, c'est, je dirais, des outils de classification en pouvant permettre à toutes les phases que l'on connaît, tous les minéraux, de les classifier par groupe, par cluster. Et à partir de cela, eh bien, on pourrait certainement innover au niveau de la synthèse et au niveau des structures. Et enfin, ce qui est aussi intéressant et sur lequel, je dirais, un grand espoir demeure, est ce que j'appellerais la chimie théorique combinatoire raisonnée, c'est-à-dire, est-ce que l'on peut, au niveau des matériaux, faire ce qui s'est fait dans le cas de la génomique, c'est-à-dire prédire les matériaux et également prédire quelles vont être les propriétés physiques, ainsi de suite. Je ne suis pas du tout compétent pour pouvoir parler de ça, mais le séminaire suivant va être totalement dédié à ce type de matériaux et comment, peut-être, dans 5, 10, 20 ans, ou peut-être un siècle, on ne sait pas, on va voir, on va pouvoir directement préparer de tels matériaux et qu'ils nous soient utiles et finalement nous aider dans cette prédiction de matériaux plus intéressants pour l'électrochimie ou pour les batteries. Et bien sûr, cette approche que je vais montrer ici a été dédiée à des matériaux de batterie, mais c'est la même systématique qu'on retrouvera lorsqu'on va dessiner des matériaux pour le photovoltaïque, dessiner des matériaux pour le terrain électrique. C'est les mêmes raisonnements qu'on va retrouver sans arrêt avec le dénominateur commun, la liaison chimique, l'électronégativité et la taille des cations. D'où je terminerai là cet exposé en vous remerciant à vous tous.